18-19, le magazine.
Bonsoir, bienvenue dans Ondes Noires. Ondes qui sont effectivement un peu noires ce soir.
Oui, un ton un petit peu plus sérieux, un petit peu plus grave que d'habitude, car nous aimerions dédier cette émission à Pascal Garnier, qui, selon ses propres mots, qu'on a trouvé dans un livre, dans un de ses livres, s'est envolé vers un ailleurs, il y a une dizaine de jours. Pour nous, c'était vraiment un des grands du polar, c'était un des meilleurs stylistes français. Il avait réussi à créer un univers bien à lui au fur et à mesure de ses nouvelles. Il a commencé par écrire des nouvelles, puis ses romans, romans qu'on a souvent qualifiés de gris, mais c'est peut-être la vie qui était très grise aussi. C'est donc un univers très noir, toujours teinté d'une ironie mordante, d'un humour grinçant, mais qui est toujours aussi enrobé d'une très très grande tendresse pour ses personnages. Pour nous, à la Noiraude, rien de mieux comme hommage que de lire un petit peu de sa prose. Donc, je vais donc vous lire un extrait d'un livre qui s'appelle « Nul n'est à l'abri du succès ». C'est un livre qui est paru en 2000 chez Zulma. Je vous conseillerais ce livre, mais on peut piocher tous azimuts dans sa bibliographie, dans un livre comme « La théorie du panda » paru il y a quelques années, toujours chez Zulma. Son dernier, « Le grand loin ». Et puis, on peut aussi piocher dans sa bibliographie jeunesse, puisqu'il a fait pas mal aussi de polar jeunesse. Donc voilà, Pascal, c'était aussi un peintre qui aimait à portraiturer ses semblables. Vous pouvez d'ailleurs avoir un aperçu de ses peintures dans un recueil qui s'appelle Flux, une recueil de nouvelles qu'il a illustré. Et puis, un livre plutôt rare, mais qu'on peut encore trouver, un recueil de nouvelles de Chantal Pelletier, un recueil, on va dire, poétique plutôt, avec de très belles illustrations de Pascal. Donc, je vais vous lire cet extrait qui convient bien...
Qui est paru aux éditions du Ricochet, édition niçoise.
Oui, ce recueil, chers amis,
c'est... Chers amis.
Chers amis.
Chers avec la chair... La chair, la flèche, comme on dit en
anglais. A-I-R. Donc, extrait de « Nul n'est à l'abri du succès ». Début d'un chapitre qui s'appelle « Ève ». J'aime beaucoup ce que vous faites, sincèrement. Mais la fin de votre roman, comment dirais-je? Vous a laissé sur votre fin. C'est ça, mais c'est bien quand même. Je suis flattée, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. C'est pour qui?
Pour moi.
J'écris pour moi? Non, pour Sophie. Alors, pour Sophie, bien amicalement. Depuis un mois, je me suis découvert un nombre insoupçonnable d'amis. Je suis devenue une sorte d'amie ricorée, littéraire, qu'on reçoit à bras ouverts, même si la plupart du temps, on oublie de les refermer sur mes frêles épaules. Je me laisse trimballer de ville en ville, docile, comme un gros paquet cadeau, le livre au bandeau rouge me tenant lieu de sésame. Ce n'est pas désagréable. Quoiqu'un tantinet ridicule, avion, hôtel, restaurant, du jour au lendemain, tout est gratuit. Alors que pour la première fois de ma vie, je suis, sinon riche, à l'abri du besoin. Ce paradoxe me laisse perplexe. Il y a 3 semaines, lorsque ma banque m'a appelé, je n'ai pas pu m'empêcher par réflexe de raccrocher. La voix de mon banquier, qui depuis des années me menaçait régulièrement d'excommunication, avait pris soudain le timbre feutré d'une hôtesse de l'air. Après m'avoir félicité et annoncé qu'il venait d'acheter mon livre, que malheureusement il n'avait pas encore eu le plaisir de lire, il le ferait sans attendre le week-end prochain, au coin du feu, dans sa maison de campagne près d'Évreux, où il m'invitait dès que je serais disponible. Donc pour me proposer, d'ami à ami, certains placements des plus intéressants. J'en fus très touchée. Dire que pendant tant de temps, j'avais cru qu'il était mon tortionnaire attitré. Voilà, extrait de « Nul n'est à l'abri du succès » qui montre un peu ce ton corrosif et un peu cynique, une vue un peu décalée sur nos petites vies. Donc à découvrir, à redécouvrir, à lire et à relire, Pascal Garnier. D'ailleurs, dans pas longtemps, au mois de mai, Zulma sort une réédition de 3 de ses livres. Voilà, donc regardez un petit peu chez votre libraire. Pascal Garnier, un très grand écrivain. Pour nous et pour beaucoup d'ailleurs. Voilà, j'ai un petit peu du mal à faire...
À enchaîner.
À enchaîner. On va comme enchaînement, va changer complètement d'univers, ça fera du bien.
Tu
avec
vas nous parler
un
d'un roman, donc.
Voilà, un livre sorti en février. C'est un livre d'un romancier qui s'appelle Elvin Post. Ce livre s'appelle « Faux et usage de faux ». C'est paru chez Seuil Policier et c'est traduit par Hubert Gall. Les faux du titre sont des tableaux que l'on peut copier ou que l'on peut voler et puis vendre. Soit se copier, soit se voler. Apparemment, c'est un bon filon. On a deux personnages, Bloom et Fish, les deux personnages principaux, qui pratiquent les deux, la copie et le vol. Et au début du roman, ils s'apprêtent au casse du siècle. C'est toujours le casse du siècle, de toute façon, dans ce genre de roman. Dans le très, très étonnant Stewart Gardner Museum, qui se trouve à Boston, dont le système de sécurité est, on va dire, carrément rudimentaire. Mais Bloom et Fish ont comme commanditaire un mafieux complètement dépressif et comme complice des branques complets. Donc, de mésaventure en conneries, ils finissent par récupérer les tableaux, au hasard d'ailleurs un Rembrandt découpé carrément au canif, quand ils vont avoir affaire à des très très méchants qui vont vouloir les récupérer.
Ça me rappelle des choses.
Oui, exactement. Oui, ça, c'est sûr que c'est un canevas qu'on a retrouvé déjà dans un certain nombre de livres. Donc, les tableaux volés, les tableaux copiés, il faut les écouler. À la mafia, au directeur du musée lui-même. Ils essaient tous azimuts. En gros, ils ne récoltent que quelques tueurs et la femme du directeur cocufiée et humiliée qui se range donc à leur côté pour se venger. Je vous laisse découvrir le dénouement.
Syndrome de Stockholm.
Voilà, ça doit être une sorte de syndrome de Stockholm. Elvin Post prend donc un thème très classique du polar, aussi bien dans les livres que dans les films, un cambriolage de musée, et il s'amuse à mettre des bâtons dans les roues de ses personnages. C'est léger, enlevé, rythmé. Bien sûr, la poisse qui s'abat continuellement sur la bande de bras cassés nous fait immanquablement penser à l'équipe de Dortmunder, du regretté Donald Westlake.
C'est ça que je pensais tout
voilà,
à l'heure.
Voilà, j'imagine bien. Et là, on ne peut pas dire le contraire, la comparaison est légèrement en défaveur du jeune auteur. Mais en fait, ce n'est pas très juste de comparer parce que qui peut se targuer de faire jeu égal avec l'écrivain américain? Donc, je vais dire que c'est un auteur prometteur et un livre distrayant. Je rappelle le titre, ça s'appelle « Faux et usage de faux » et son auteur, Elvin Post. Et Jacques me fait le grand honneur et le grand plaisir de me laisser pour une fois
présenter la musique.
Voilà, parce que d'habitude, c'est jamais moi, j'ai jamais le droit, parce que moi, j'y connais rien dans la musique. Mais là, comme c'est un extrait qui s'appelle Californication d'un groupe californien qui s'appelle Red Hot Chili Peppers, ce titre est cité dans le roman d'Elvin Post. Donc c'est moi qui ai demandé ce morceau, je l'ai eu et je l'ai présenté.
Et nous allons donc l'écouter.
À tout de suite. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California. Unicorn, hot Donc Red Hot Chili Peppers avec Californication. Je ne lasse pas d'annoncer les titres
de l'album éponyme.
Jacques, de quel livre vas-tu nous parler maintenant ?
Eh ben, bon, un polar bien sûr, mais un polar un peu étrange qui tient à la fois du roman noir, du thriller, c'est ce qui a marqué sur la couverture, du roman d'aventure avec même un soupçon de surnaturel voire de fantastique. Pourtant, en général, moi le fantastique dans le polar, j'aime pas trop ça, à part dans les romans de Stephanie Benson. C'est généralement utilisé par les auteurs comme une espèce de manque d'imagination pour se dépêtrer de leur intrigue.
Mais oui, là, surtout pour finir des fois...
Mais là, absolument pas du tout. Donc ce roman s'appelle Noir Océan. L'auteur, c'est Stéphane Manin. Non, Mani.
On garantit pas la prononciation.
On garantit pas la prononciation. Il y a un accent sur le A, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un auteur islandais qui est donc traduit par Eric Bourri.
Et c'est publié chez...
Et qui est publié donc à la série Noire, en grand format. C'est un roman qui fait 474 pages et qui vaut 21,30€.
Merci pour toutes ces précisions.
Voilà. Donc pendant les 100 premières pages du roman à peu près, Stéphane Mani nous présente tour à tour ses personnages, les 9 marins. C'est la plus courte partie et elle se passe à terre celle-là. En Islande donc, c'est un petit peu donc une toute petite partie de polar polaire. Les gens ils sont aux familles, ils sont dans les bars ou dans les gangs. Ils habitent tous presque dans le même coin. Et puis, les 9 marins embarquent à bord de leur cargo dans le port de... Gruntartangi.
Si tu avais dit un port islandais, tu évitais...
Voilà, un port islandais de Gruntartangi, en Islande donc, pour récupérer une cargaison au Suriname qu'ils vont ramener au port de Gruntartangi.
Il n'y a pas une ville aux prononciations imprononçables de Suriname, non?
Non. Il donne pas, c'est Suriname. Donc, c'est pas un petit bateau, parce qu'en fait, c'est un cargo qui fait quand même 100 mètres. Mais à bord de ce bateau, il y a de nombreux comptes à régler. D'abord, des marins avec le commandant, avec la compagnie qui veut liquider le bateau, et donc, évidemment, l'équipage.
Liquider un bateau sur un océan, c'est bête.
Oui, c'est drôle. Et il y a aussi l'antipathie naturelle entre les gens du pont et les officiers, et avec ceux d'en bas, donc ceux de la machine. Alors si en plus de tout ça, au milieu de ces gens-là, vous rajoutez un marin qui en fait n'en est pas un, mais qui est un truand notoire, qui monte à bord du bateau, on ne sait pas trop comment, enfin du moins lui, il ne sait pas trop comment, et qui en plus, il est blessé, vous imaginez que l'ambiance ne va pas être terrible. Sans compter qu'il y a un projet de mutinerie, il y a quand même pas mal d'alcool, il y a de la fumette, de la drogue donc.
Oh.
Vous aurez une idée donc de ce qui va se passer, en fait, parce qu'en gros, c'est un huis clos. Le bateau s'appelle le Père, P-E-R. J'aurais dû dire ça comme ça, plutôt que Gruntartangi.
Oui, c'était plus facile à prononcer, c'est sûr.
C'est un huis clos qui est aussi rythmé par une musique qui va rajouter à la tension du roman qui grandira au fur et à mesure des pages, la tension qui sera de plus en plus palpable. C'est une musique qui berce tout le roman, si j'ose dire, car c'est la seule musique du bord. Il n'y a qu'une cassette à bord de ce bateau, dans un magnétophone auto-river. Donc quand tu arrives à la fin de la phase 1, ça passe à la phase 2, et quand ça arrive à la fin de la phase 2, ça passe...
Métaphore certainement de leur destin.
Très certainement. Et donc ça tourne de façon obsédante. Et évidemment, en plus, ce disque, donc, c'est un disque des Doors, qui s'appelle Strange Day, et il y a des titres du genre « I can see your face in my mind » ou « When the music is over », avec mon accent toujours aussi formidable, ou alors « People are strange ». Donc pour vous donner une petite idée, on va écouter juste quelques secondes du premier morceau de la phase 1, donc, qui s'appelle « Strange Days ».
Voilà. Incantatoire s'il en est.
Voilà, ce Strange Days aurait pu être d'ailleurs le titre du bouquin. Donc c'est un huis clos, disais-je, qui se passe sur 100 mètres de long, le bateau, 5 ou 6 étages à peu près, donc de la machine au pont supérieur. Un bateau où en même temps, les divers éléments vont tour à tour cesser de fonctionner. D'abord, plus de radar ni de télécom, donc le bateau est isolé du monde, puis plus de moteur, et donc en plein Atlantique, évidemment en pleine tempête. Donc le bateau va commencer une longue dérive physique. La dérive physique du bateau, mais aussi la dérive morale des marins qui sont à bord, qui vont perdre, pour certains la raison, pour d'autres le bon sens, ou même l'instinct de survie. Et ce qui est super dans ce bouquin, c'est que l'écriture évolue avec l'état mental des marins, ou avec l'état de la mer, ou avec l'état de fatigue. Le lecteur, en fait, embarque avec les marins au début à la première, enfin pas à la première page, à la page 100 quoi, quand ils prennent à bord, et ils quittent le navire qu'à la dernière ligne.
J'espère simplement qu'en lisant on n'a pas le mal de mer.
Non, autant vous dire qu'en fait c'est très bien écrit parce qu'on se laisse parfaitement
embarquer. Peut-on dire.
Exactement. Donc ben ça va bientôt être l'heure des informations. À tout à l'heure.
Un gros coup de cœur, Noir Océan de Stéphane Magny. À tout à l'heure.